par exemple, pendant la colonisation du continent américain, au début, évidemment, les femmes sont des compagnes de tous les moments, de toutes les détresses et de tous les bonheurs des nouveaux colons européens en Amérique. Et là, elles ont accès pratiquement à tous les métiers. Et elles sont très libres jusqu'à à peu près à la Révolution américaine, qui de nouveau les boucle. Un peu comme la Révolution française. La Révolution française, avec les cahiers de doléances, laisse apparaître toutes leurs aspirations. Et puis Napoléon, avec son code sans merci, vient les remettre à leur place très vite. Mais dans toute l'histoire, effectivement, il y a des cas de grandes... je ne parlerai pas d'une femme aussi puissante que, je sais pas, Catherine de Médicis. Tout au cours de l'histoire, il y a évidemment ces grandes exceptions. Mais si on regarde la situation de la majorité des femmes, je crois qu'on peut accepter qu'elles étaient exclues de la possession de la majorité des biens. Et puis qu'elles avaient peut-être conçu une fascination... exceptionnel puisqu'ils étaient interdits, comme ça arrive souvent. J'entends, c'est une réaction psychologique assez normale que on ne désire jamais autant que ce qu'on nous refuse.
Donc là, tu ne ferais pas de différence entre les femmes de milieu très modestes que les femmes de milieu au contraire très aisées, riches ou pauvres, elles ne géraient pas l'argent pour elles. Elles n'avaient pas de décision à prendre sur l'argent. Elles en profitaient de toute évidence mieux dans une classe que dans l'autre, mais elles ne le géraient pas.
En tout cas, moi je suis pas une grande, j'aurais pas la prétention de te répondre pour n'importe quelle période historique, parce que je connais pas assez. Mais même les grandes bourgeoises, même les grandes aristocrates étaient légalement toujours sous la tutelle du mari. D'ailleurs, le cérémonial qu'on utilise encore aujourd'hui au cours du mariage le montre très bien. On passe du bras du père au bras du mari. Hein, il n'y a pas un instant de liberté autour du mariage.
Et elles perdaient leur dot, elles perdaient les biens qu'elles amenaient, oui, en tant que femmes riches, aristocrates ou bourgeoises.
La seule chose, c'est que la Révolution française, pour ce qui le droit qui nous intéresse nous plus directement, a aboli le droit d'aînesse et l'inégalité devant l'héritage. Donc avant, il n'y avait qu'un qui héritait et tous les autres devaient se débrouiller. Et ça a été aboli, donc chaque enfant avait droit à la même part d'héritage. Mais pour le reste, ce qui est curieux, c'est qu'une femme non mariée avait au fond plus de droits qu'une femme mariée. C'est au moment de la... C'est comme si elles arrivent à une certaine majorité et puis elles la reperdent parce qu'elles se marient. Parce que la célibataire souvent finissait dans un couvent ou enfin une autre institution où on n'avait pas l'occasion d'avoir une vie très indépendante. Mais il est clair que la femme mariée, dès qu'elle est accompagnée, elle a besoin d'être mise sous tutelle. Et ce n'est que vers le milieu du 19e siècle qu'on lui donne le premier droit moderne, disons, qui est celui d'ailleurs d'ouvrir un carnet d'épargne et de mettre de l'argent dessus, mais pas d'en retirer sans l'accord du mari. Par contre, on peut l'ouvrir tout seul. Mais pour retirer quoi que ce soit ou faire circuler cet argent, on a besoin de l'accord du mari. Et on leur donne la possibilité d'ouvrir un carnet d'épargne parce qu'on rend du compte vers la fin le milieu du 19e siècle que la femme était souvent celle qui gardait les bas de laine et qui avait les économies, et puis que ce serait bien de faire fructifier ces économies pour la société ou pour l'État en rassemblant ça dans les banques. Donc on l'a attirée, mais il a fallu beaucoup de temps pour qu'elle ait le droit de gérer cet argent librement aussi.
Mais en Suisse, rappelons qu'il a fallu attendre 1981 pour que la femme puisse signer l'achat de quelque chose d'important.
Voilà. Comme... Au même titre que son mari.
Voilà. Voilà.
Donc, oui. Beaucoup de choses sont très très récentes. L'ouverture d'un compte en banque, le droit de travailler sans l'accord du mari, ça c'est, je crois, en France, c'est 1967. Le droit de travailler sans demander l'avis du mari. Alors, c'est tous ces droits qu'on a aujourd'hui. Peut-être nos filles de 15 ans, elles les considèrent normaux, mais elles sont nées avec. Mais c'est tout récent pour nous, vraiment.
Et c'est probablement quand même un des aspects les plus intéressants du livre, c'est de se rendre compte à quel point les changements sont récents et rapides par rapport à toute l'histoire des femmes, qui dure quand même bien 2000 ans dans ce livre. Et c'est presque vertigineux, je trouve, la différence entre ce qui s'est passé pour nos arrière-arrière-grand-mères et puis la situation que vivent aujourd'hui les jeunes femmes, et a fortiori les jeunes filles qui se mettent maintenant à gagner leur vie.
Donc tout à coup, le problème s'est débloqué. Grâce à quoi, Annette ? Parce que donc toi, tu t'es attachée à la partie argent, liberté, argent, indépendance, argent, autonomie, et que
oui,
la femme gagne elle-même.
Une très petite partie du livre, si on veut.
Proportionnellement à l'histoire.
Parce qu'il y a énormément d'autres situations qui sont évoquées, et toute cette importance de l'histoire. Et comme on l'a dit au début, Marie-Françoise Hans est historienne et femme de lettres, et donc elle s'intéresse beaucoup à ce qui a précédé la situation aujourd'hui ou contemporaine. Et effectivement, il y a surtout un éventail des problèmes proposés, des avances qui sont réalisées, mais en fait, c'est surtout un chemin qui s'ouvre.
Et alors, est-ce que Marie-Françoise Hans voit le problème se débloquer en même temps que la situation de la femme change ? Parce que chaque fois qu'on a parlé d'argent en ce moment, jusqu'à maintenant, disons, j'ai l'impression, j'avais toujours dans la tête des images qui, elles aussi, me reliaient à la situation de la femme en général. Finalement, le problème de l'argent n'est jamais que peut-être quelque chose de très saillant dans la situation de contraignante qu'a vécue la femme de dépendance depuis 2000 ans. Alors, est-ce qu'au moment où ça va changer, cela correspond aussi à des changements importants dans la situation de la femme vers plus d'égalité ? Annette ?
Je ne sais pas si je peux répondre directement à ta question, Catherine, mais il est dans les enquêtes qu'elle a faites pour ce livre, Marie-Françoise Hans. Elle met en évidence quelques interviews de petites filles ou de jeunes filles à qui elle a parlé de ce problème de l'argent. Et elle montre bien que dans la mesure où ces fillettes sont déjà très conscientes de leur identité, où elles s'affirment, où elles se sentent absolument légales de leurs camarades masculins, eh bien, en même temps, elles prennent autant d'initiatives que ces garçons par rapport à ce problème de l'argent. Elle cite par exemple deux jeunes filles qui se lancent dans des entreprises de création personnelle pour faire un petit peu d'argent. On sait qu'il y a actuellement des espèces de camps de garçons et filles aux États-Unis où on leur apprend à gérer l'argent d'une manière, banquière ou capitaliste, c'est-à-dire comment est-ce qu'on place de l'argent dans certaines actions pour que ça rapporte plus ou moins. Et on se rend compte qu'à ce moment-là, les filles se sentent aussi concernées que les garçons et de la même façon. Et je crois que là, Marie-Françoise Hans met bien en évidence qu'il y a un changement de mentalité globale et qu'effectivement, ça intègre aussi ce problème de la relation à l'argent et que ces fameux problèmes de difficulté, d'ambiguïté qui ont été vécus tellement fort par les héroïnes littéraires ou par pas mal de femmes des générations précédentes, sont en train de changer pas mal. Je pense que ce qui est très difficile de juger, c'est si ça concerne la majorité des jeunes filles ou si ça concerne essentiellement celles qui sont quand même formées d'une manière, disons, scolaire et voire universitaire assez fortement.
Et est-ce que cela concerne tous les domaines ? Est-ce que, par exemple, des lieux éminemment masculins comme la bourse ont été touchés par la présence des femmes ?
Alors,
pour prendre un exemple.
Oui, mais tout à fait. Et il y a d'ailleurs l'exemple, elle raconte à un moment donné qu'elle est allée visiter la bourse et que pour elle, ça a été effectivement une découverte. Qu'il fallait franchir quand même certains barrages, que les quelques femmes qui étaient dans ce domaine étaient encore vues comme des sortes d'extraterrestres, si je puis dire. Mais quand même, elles y sont. Et il est clair qu'elles ne vont plus laisser le terrain. Ça, c'est quelque chose qu'on sent très fort dans ce livre, comme dans d'autres relations, dans les journaux concernant ce domaine-là. Et je crois que c'est ça qui est le plus grand changement aujourd'hui.
Par contre, il y a 20 ans, en 1970, à l'époque des grandes luttes féministes ou des grandes manifestations féministes, il semble qu'il n'y a pas eu de commando féministe qui soit allé jusqu'au sein du sein, ce qu'ils appellent le cœur même de la bourse, c'est-à-dire un endroit qui, paraît-il, s'appelle la corbeille, où on fait les ventes et achats de,
d'actions, crie beaucoup.
Où on crie beaucoup. Et quand elle visitait la bourse, récemment, je crois en 1987-88, elle a demandé à sa guide, qui était une femme, si des femmes, des groupes féministes n'avaient pas pénétré jusque-là. Et l'autre l'a regardée un petit peu bizarrement. Elle lui a dit non, 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 absolument pas. Donc, en 1970, on n'osait pas aller jusque-là. Maintenant, on ose. Preuve de nouveau que c'est, tout ça est très, très récent. Mais effectivement, cet argent-là, l'argent abstrait, comme elle l'appelle, l'argent de bourse, de spéculation, les femmes commencent à y rentrer et on ne les considère plus comme des monstres pour le faire. Ce qui était le cas auparavant. Il y en a eu quelques-unes qui ont fait de la spéculation à travers l'histoire et elles étaient plutôt mal considérées en général.
C'est marrant que tu dises cela parce que c'est la question que j'avais envie de vous poser. Tout à l'heure, on évoquait les femmes qui s'engageaient dans la politique. On constatait qu'elles avaient une façon différente, un langage différent de celui des hommes. Est-ce que face à l'argent, aujourd'hui, alors qu'elles peuvent accéder à un certain nombre de hautes responsabilités ou de professions plus pointues liées à l'argent, est-ce qu'elles se comportent comme les hommes avec l'argent? Alors, elles spéculent comme tout le monde. Là, elles sont acharnées, elles ont les dents pointues comme les hommes.
Apparemment, il y a une tranche d'âge qui est plus portée sur ces activités de spéculation. C'est les femmes qui ont entre 35 et 55 ans. Mais en général, il semble que les femmes se comportent, en tout cas dans leurs dépenses, différemment que les hommes. Elle dit par exemple que les femmes dépensent beaucoup pour leurs enfants. Ont tendance on peut tendance à refuser de leur donner des habits ou enfin je sais pas des objets qu'ils voient en publicité à la télévision. Elles dépensent beaucoup pour leurs enfants et facilement. Elles tendent à, si elles ont un peu d'argent, à l'investir dans un toit plus que les hommes, si elles peuvent elles le faire ou influencer le mari de le faire. Il semble que pour les hommes, avoir de l'argent, ça représente plutôt une réussite sociale. Pour les femmes, ça représente plutôt le moyen d'améliorer l'existence. Leur existence à elles et celle de leurs enfants. Mais elles ont des comportements contradictoires face à l'argent qui leur vient de leur éducation, dont certains... même à moi, ne sont pas étrangers. Je me suis retrouvée quelquefois un petit peu surprise là, dans ces pages. Je me souviens d'une réflexion qu'elle faisait. Les femmes hésiteront peut-être pas trop à s'acheter une robe assez chère. Et puis, à la suite de ça, elles iront au supermarché faire les courses. Et puis, elles hésiteront pendant 10 minutes entre deux poudres à lessive qui représentent 4 francs de différence. Parce que tout d'un coup, c'est comme s'il fallait être bien économe. Mais qu'on s'était quand même permis une folie une heure avant. C'est pas très logique, c'est plein de passion ce sujet.
Evelyne, les femmes d'aujourd'hui qui, avec le désir d'accéder à l'indépendance, de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir choisir en sachant que si elles décidaient de faire ceci ou cela, elles pourraient le réaliser puisqu'elles en avaient désormais les moyens, est-ce que ça change beaucoup leur rapport avec les gens avec qui d'habitude elles devaient toujours négocier l'argent? Bien évidemment, leur mari ou leur compagnon en premier, peut-être avec les patrons? Parce que ça change peut-être aussi beaucoup de choses de savoir qu'aujourd'hui, une femme, quand elle a un salaire, elle sait qu'elle en a besoin pour non seulement faire vivre sa famille, etc., mais aussi pour elle exister en tant que personne par rapport à son indépendance. Est-ce que ça change ses rapports justement avec ses enfants ou peut-être elle transmettra quelque chose de nouveau malgré les contradictions que tu viens de mettre en évidence? Enfin, Quand on a deux salaires dans un couple, par exemple, comment ça se passe?
Alors bon, si on reprend le livre, Marie-Françoise Hans donne un certain nombre d'exemples. Et c'est à la fois la richesse et la limite d'un livre comme cela, je trouve. C'est que ces exemples sont toujours très passionnants à découvrir. C'est comme si on entrait un petit peu dans l'intimité d'une famille ou d'un couple et on voit que ça se présente de manière tout à fait différente. Il y a les paniers percés, c'est vrai. Les gens qui considèrent que l'argent, c'est uniquement pour mieux vivre et en tout cas pas pour économiser. D'autres qui, au contraire, en couple, décident de quand même consacrer une partie du revenu à autre chose. Enfin, il y a tous les comportements possibles et imaginables et je trouve très très difficile de tirer des conclusions, surtout aujourd'hui. On peut tirer quelques conclusions de la manière des relations des femmes avec l'argent dans l'histoire, puisque bon, c'est fini. Aujourd'hui, il y a quand même tellement d'ouvertures, tellement de comportements différents à ces types qui sont donc bien montrés dans ce livre par tous les exemples. Qu'on ne peut pas vraiment tirer des conclusions évidentes de ces transformations de relations entre les gens. Je crois que là, ça mériterait un nouvel ouvrage ou de nouveaux types d'enquêtes qui n'existent pas, hélas, aujourd'hui.
Est-ce qu'Annette, tu nous lirais, ou Evelyne, je ne sais pas laquelle des deux peut-être choisit une page, de la fin du livre pour qu'on se rende compte du changement de style? On était dans un style bien particulier dans le premier extrait que tu nous as lu. Est-ce que lorsqu'on évoque la situation d'aujourd'hui des femmes par rapport à l'argent, est-ce que ça change beaucoup le style de l'écriture?
Quelque chose qui change. Désormais, les femmes l'ont compris. Leur liberté passe par un métier correctement rémunéré. Évidemment, pour les plus âgées, les jeux sont faits. C'est trop tard, rien ne va plus. En revanche, pour les autres, les choses sont claires. Il leur faut gagner leur vie en ne craignant pas bêtement d'y perdre leur âme, leur féminité. En cessant de prendre des airs éthérés, faussement désintéressés. En ne voyant pas en tout mal le pigeon à plumer. Bref, il s'agit d'abandonner l'état de mineur et de se faire au maniement, parfois abstrait, de l'argent. Dès lors, on imagine que les femmes d'aujourd'hui, de demain, n'auront plus tant de raisons d'entretenir avec Saint Fric des rapports aussi tarabiscotés.
Alors, l'histoire de Saint Fric, dans le livre de Marie-Françoise Hans, Les femmes et l'argent, avec pour sous-titre, nous avions oublié de le préciser, l'histoire d'une conquête,
c'est
qui
ça,
indique bien dans
ça.
Quel sens le livre est écrit. Tu le disais tout à l'heure, Annette, il y a des choses qui t'ont plu, il y a des choses qui t'ont agacé. Evelyne, tu as peut-être aussi un avis sur la question. Hein, au bout du livre, chacun dans votre partie ou dans le fil conducteur, vous vous sentez bien avec cette réflexion sur l'argent et les femmes?
Écoute, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant. Je me suis à la fois amusée en lisant donc tous ces exemples. Je trouvais vraiment assez passionnant la manière, disons, très libre dont elle interprète certaines choses. Mais comme je l'ai dit au début, je trouve que c'est un long livre et à la fin, il est un petit peu fatigant, il est un petit peu répétitif. Et j'aimerais bien, comment dire, que de temps en temps, on élève un petit peu le débat à des choses un petit peu plus sérieuses, un petit peu plus solides. Le livre, il est tout à fait sérieux. Les problèmes qu'elle aborde sont... Elle ne nie pas du tout l'importance de tout cela. Mais c'est dans la façon de parler, dans la façon d'écrire, que de temps en temps, je me sentais un petit peu frustrée, disons.
Evelyne ?
Oui, alors, tu vois, on dit toujours, ça vaut pas la peine de lire un livre sur ce sujet, puisque tout le monde, on connaît tous l'argent, on l'utilise tous les jours, donc il n'y a rien à découvrir. Et c'est quand on lit une analyse sur un de ces sujets comme celui-là, il y en a d'autres sur lesquels on dit qu'on sait tout parce qu'on le pratique tous les jours, etc. Et c'est ce qui m'est un peu arrivé avec ce livre-là. Moi, je pensais être claire avec moi-même, sur ce sujet de l'argent. Et ça me, en lisant ce livre, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires du tout et que ça méritait réflexion. Mais comme le dit Annette, bon, quelquefois on le trouve un petit peu long, mais heureusement, comme l'auteur est amusante et nous lance ses clins d'œil répétés, ça va, on supporte.
En tout cas, je vous remercie toutes les deux d'avoir été fidèles à notre rendez-vous presque mensuel. Mm-hmm. Donc, on répète le titre de ce livre, « Les femmes et l'argent, l'histoire d'une conquête », écrit par Marie-Françoise Hans, que l'on peut trouver maintenant en livre de poche. Donc, c'est bien avantageux. Et que vous trouvez bien évidemment à la librairie des femmes, l'inédite à Genève. On se donne juste le petit traditionnel rappel des heures d'ouverture.
Alors, le lundi de 14h à 18h30, du mardi au vendredi de 9h à midi de 14h à 18h30 et le samedi, une ouverture particulière de 10h à 13h.
Voilà, alors à tout bientôt, j'espère, pour de nouveaux livres.
Florimorangis, tu veux le rôle, sors tes nichons, tu seras la star des les rois du vice. Un jour, je quitterai Montreuil pour aller à Monte Carlo. Des blancs, tout gris, je ferai mon deuil. J'irai chanter au casino. Il prime, il roule des mécaniques. Schwarzenegger en mécano. À l'intérieur, une âme de flic. Dehors, les rambos ramolos.
C'était Diane Tell dans la comédie musicale Marilyn Montreuil, vous l'aurez compris. Elle voulait quitter Montreuil pour aller à Monte Carlo, pleine d'espoir dans ce qu'elle allait pouvoir vivre là-bas. Et puis encore une histoire de femme et de richesse, c'est Catherine Lara, la roqueuse de diamants.
Quand je les vois sous toutes leurs facettes, taillées en rose ou en navette, j'ai comme un frisson dans le dos. C'est mon point faible, c'est mon credo.
Je suis la roqueuse de diamants. Je suis la roqueuse de diamants. Je suis la roqueuse.
joyaux, car au carat des pierres précieuses, je prendrai l'âme toi brioleuse.
C'était Catherine Lara. Voilà, pour aujourd'hui, Remue Ménage, c'est terminé. On deux femmes, ça continue avec les informels de Radio Pleine Lune que vous retrouvez dans quelques temps.